Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 3 octobre 2024. Aujourd'hui, on va parler de la possible submersion dans les décennies qui viennent des EPR de Gravelines et des futurs EPR qui seront mis en service prochainement avec un rapport de Greenpeace assez alarmant. On parlera aussi du Brésil qui étouffe sous les incendies et qui est des fumées donc toxiques qui, bien parallèlement à tout cela, mettent à mal le gouvernement Lula qui est en place et qui donc tente de lutter contre la déforestation, mais politiquement c'est pas facile là-bas. Et on va commencer tout de suite ces nouvelles du monde par s'intéresser, vu que c'est la rentrée universitaire, même s'ils ont déjà repris des cours, mais surtout qu'on s'interroge sur l'avenir de pas mal de secteurs publics en France avec les nouvelles coupes budgétaires qui sont annoncées par notre nouveau gouvernement. On va donc s'attarder un petit peu à un article publié, une analyse publiée dans le journal Le Point avec un G à la fin, qui est donc principalement rédigé du côté de Montpellier et qui s'intéresse pas mal notamment à la question étudiante. Et cet article donc décortique un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'université Paul Valéry. C'était au mois de mai dernier qu'il faut remonter, où un vote a eu lieu en conseil d'administration. Un vote donc favorable qui a acté la transformation de cet établissement, donc l'université, en établissement public expérimental, un EPE. Un EPE, c'est quelque chose qui a été un petit peu inventé dans un texte de 2018, une ordonnance plus précisément, et qui va par exemple permettre de déroger au code de l'éducation, ce qui laisse un petit peu planer de sombres menaces. En tout cas, c'est ce qui inquiète de nombreux syndicats étudiants, mais aussi ceux des chercheurs et enseignants de ces structures. Alors pour l'heure, donc à cette rentrée, l'université Paul Valéry est donc maintenant regroupée dans le cadre de cette EPE, avec aussi l'École nationale d'architecture de Montpellier et le CIMM, le Centre international de musique médiévale. Tout ça forme donc maintenant l'université de Montpellier Paul Valéry. À savoir qu'ils seront aussi associés des établissements comme le MOCO, le Montpellier Contemporain. C'est les Beaux-Arts et les centres d'exposition du Musée Contemporain et de la Panacée. Mais il y a aussi là-dedans l'École supérieure d'art dramatique et l'Institut chorégraphique national. Donc vous l'aurez compris, pas mal de culture et d'art qui se retrouvent aussi dans cette forme un peu hybride. L'Université Paul Valéry n'est pas la première à prendre ce chemin à Montpellier, puisque il y a aussi l'Université de Montpellier qui est maintenant la fusion d'anciennement Montpellier 1, qui s'occupait de médecine, droit, sport et économie, et Montpellier 2, qui était plutôt sciences et éducation. Tout cela est déjà devenu donc l'Université de Montpellier, également sous le sigle établissement public expérimental. Ça fait déjà 2 ans. Ce changement, je vous le disais, a été autorisé par une ordonnance gouvernementale qui date de décembre 2018 et qui va un petit peu sur ce terrain de l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. C'est M. Frédéric Vidal qui a porté ce texte, à qui on doit aussi la merveille de Parcoursup. Il a été ministre de l'enseignement supérieur de 2017 à 2022. Et ce texte, cette ordonnance, permet donc aux facs de se regrouper ou de fusionner. Et aussi en dehors de leur secteur, c'est-à-dire qu'elles peuvent notamment fusionner, par exemple, avec des écoles privées, ça a été le cas à Cergy, ou alors avec d'autres centres de recherche, comme par exemple le CNRS. Fini donc avec ces expérimentations et la notion d'université publique, puisqu'il va être maintenant permis de déroger au code de l'éducation, mais aussi au statut du personnel, aux procédures de recrutement, etc. Cette ordonnance permet de réunir donc dans un même établissement des universités, vous l'aurez compris, mais aussi d'autres structures qu'on appelle des établissements composantes. Et au bout de deux ans, de cette fameuse expérimentation, les établissements peuvent ainsi choisir de mettre fin au caractère expérimental, qui peuvent être modifiés en conseil d'administration. L'argument du gouvernement pour justifier ce processus de fusion, c'est d'améliorer la place des universités dans le classement international de Shanghai. Encore lui. Ce classement note les universités en fonction notamment du nombre d'articles scientifiques qui sont publiés dans des revues ou du nombre de prix Nobel qui en sortent. D'où l'intérêt de s'associer avec par exemple le CNRS. On peut aussi citer un autre argument qui est celui de la mutualisation des services et des économies d'échelle. Bon, vous l'aurez compris, en général, c'est surtout pour pouvoir réduire le nombre de postes. D'ailleurs, je vous renvoie, puisqu'on parle du classement international de Shanghai, il y a deux semaines, je crois, je vous avais fait part d'un article qui parlait de la précarité étudiante au campus de Saclay, qui est pourtant classé dans l'un des 10 meilleurs campus du monde d'après le fameux classement de Shanghai, et dans lequel pourtant des étudiants s'en retrouvent à aller en Airbnb ou voire même à demander l'aumône dans une paroisse à côté pour trouver des logements. Bref, vous voyez que l'excellence ne va pas forcément avec des conditions d'enseignement, agréables, et peut-être qu'il en est de même pour la recherche. Mais si on va un petit peu plus loin, là, on reste sur Montpellier, et qu'on essaie donc avec l'auteur de cet article, je vais vous le signer, Elian Barascu, qui est donc un journaliste du Point, il nous explique un petit peu qu'il faut, pour comprendre tout ça, comprendre ce qu'est le projet Miranda. Miranda, c'est Montpellier Institute for Research Creation on Art, Culture and Heritage in a New Digital Age. Tout ça. Ça veut dire l'Institut de Montpellier de recherche création sur l'art, la culture et le patrimoine à l'ère du numérique. C'est un projet qui a été sélectionné l'an dernier suite à une vague d'appels à projets qui s'appelle France 2030. France 2030, c'est Emmanuel Macron qui a lancé ce plan d'investissement en 2021. Donc un appel à projet pour des projets de ce genre-là. L'idée, c'est d'aller vers la modernisation et la réindustrialisation du pays. Donc vous l'aurez compris, là, pour ce qui concerne Montpellier, c'est autour vachement de l'art, de la culture et du digital, donc, puisque c'est notamment les jeux vidéo, les effets spéciaux du cinéma qui sont aussi un petit peu pointés avec ce titre. Donc France 2030, c'est un volet pour la culture et la création artistique qui sont jugés indispensables à l'identité et la vitalité de notre pays. La France, ça ce sont les mots d'Emmanuel Macron. À ce titre, donc, le projet montpelliérain Miranda a obtenu une aide d'État de 12,2 millions d'euros. L'ambition donc de Miranda, c'est de faire un pôle d'excellence en recherche-création dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine, ancré dans l'écosystème territorial et moteur de la démocratisation culturelle. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on remplit des appels à projets. On met tous ces mots-là, on mélange, et en général, ça fait un joli cocktail. Ce pôle d'excellence, donc Miranda, comprend, si on regarde un petit peu en filigrane, bah justement les mêmes composantes que l'actuel EPE, l'établissement public expérimental, de Paul Valéry. Donc ces deux projets qui vont pouvoir bénéficier l'un de l'autre. Les structures de copilotage de projets, par exemple, ont été formalisées et pérennisées dans ce fameux passage de Paul Va en EPE. Le gouvernement, explique aussi le journaliste, a longtemps puni Paul Valéry pour avoir traîné un petit peu à avoir fait ses fusions. C'est en effet l'université la moins bien dotée de France, si on regarde le budget par étudiant, et chaque année elle présente un déficit de plusieurs millions. Ces 12 millions donc, qui arrivent par le projet Miranda sont une bouffée d'oxygène salutaire pour la direction de l'université, puisqu'ils vont être réaiguillés vers là. Difficile donc de ne pas avoir le sentiment qu'avec l'octroi de cette subvention pour le projet Miranda, le gouvernement aurait un petit peu payé pour en finir avec la résistance locale universitaire à cette fameuse fusion. D'ailleurs, lors de l'inauguration de Miranda le 26 avril dernier, la directrice de Paul Valéry, Anne Freys, a défendu un projet pour la recherche intensive, et la rectrice de Montpellier, Elle-Sophie Bergent, a insisté plutôt sur l'aspect un petit peu impactant sur le territoire. Au-delà de son aspect scientifique, dit-elle, le projet Miranda aura un impact majeur sur le territoire en lien avec le conseil régional. Il n'est pas anodin qu'outre des acteurs de l'enseignement du supérieur, des acteurs culturels et des acteurs de la recherche ou des acteurs économiques aient rejoint le projet. Et elle cite par exemple France TV. Ce n'est vraiment pas anodin, dit-elle. Effectivement, on peut se demander ce que France TV vient faire à la fac. Donc France TV, mais on peut aussi citer Peak Studio, les futurs studios du Peak Saint-Loup, et l'entreprise de jeux vidéo Epic Games ont apposé leur signature au fameux projet Miranda. Eux n'ont pas payé d'ailleurs, mais ils seront peut-être du côté des bénéficiaires. Donc vous l'aurez compris, on orientera peut-être les étudiants vers des études, en tout cas des formations, qui vont leur permettre de bosser directement dans ces grandes entreprises. Mais on se demande si le rôle de l'université, c'est juste de faire ça, de former des travailleurs pour des entreprises locales. Concrètement, en tout cas pour les chercheurs de l'université, cette manne financière, donc les 12 millions d'euros, sera disponible sur projet, puisque Miranda, en fait, si vous avez compris, c'est un projet qui va ensuite lui-même proposer des appels à projets. On est un petit peu sur des usines à gaz, de redistribution d'argent avec plusieurs volets. D'ailleurs, c'est un thésard qui a été interviewé qui explique comme ça. On gagne un appel à projet pour payer des gens à répondre à des appels à projets. Pour les équipes, il s'agit donc surtout de faire rentrer les projets de recherche dans les attendus imposés, parfois en ajoutant seulement des mots-clés, parfois en se pliant aux attendus artistico-développementalistes. Un horizon donc en interne qui éveille la crainte d'une augmentation des formations pseudo-scientifiques. D'ailleurs, l'article renvoie à une histoire de master quantique, je crois que je vous en avais parlé aussi l'an dernier, qui avait d'ailleurs été un petit peu mise à mal suite à l'écriture de cet article dans le journal Le Point. Un étudiant qui fait partie du syndicat de combat universitaire de Montpellier fait part, lui, de ses craintes quant à la qualité des enseignements qui seront donc fournis. Si les profs passent leur temps à remplir des appels à projets, on a peur qu'ils délaissent leurs étudiants. Et pour un autre enseignant-chercheur interviewé, c'est le début de la casse du cadrage national des diplômes universitaires. En gros, avec ce type de format, là je vous ai parlé de Montpellier, mais il faut imaginer qu'il y en aura d'autres dans plein de villes, chaque université va pouvoir proposer son diplôme local dans une logique de compétition. C'est aussi la position d'ailleurs des syndicats solidaires qui, dans un communiqué du mois de mai dernier, dénonçait une réorganisation territoriale remettant en cause le principe même du service public de l'enseignement et de la recherche. La loi Pécresse de 2007 a soumis les universités à l'austérité budgétaire pour les pousser vers la recherche de financement alternatif. Les PIA, Programmes d'investissement d'avenir, ont introduit une logique de financement sur appel à projet pour la politique de site, l'équipement et la politique scientifique. Et donc, le nouveau venu, les EPE, les établissements publics expérimentaux, parachèvent cette logique. Attendez, c'est bien public, ça veut dire ? Ouais, c'est ça, établissement public expérimental. Bon, in fine, si on revient aussi un petit peu au concret, les syndicats étudiants redoutent par exemple que la sortie du code de l'éducation, qui est donc suit cette évolution, permette à l'université peut-être d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants. La présidente de Paul Valéry dénie fortement cette tentation et affirme qu'elle se battra pour que ça n'arrive pas, mais est-ce qu'elle en a vraiment les moyens ? Une chercheuse syndiquée au Syndicat national de la recherche scientifique explique d'ailleurs aux journalistes, la présidente de l'UPV peut bien dire ce qu'elle veut, le gouvernement avance ses pions. Et d'ailleurs, elle rappelle qu'en décembre, Emmanuel Macron et Sylvie Retailleau, qui étaient déjà et encore ministre de l'Éducation nationale, ont annoncé un nouveau plan avec une loi Autonomie 2 dans les tuyaux, une loi qui visera à enfoncer le clou donc, de ces fameuses fusions et qui prévoit la caporalisation des CNRS et, en gros, pour eux, in fine, la destruction du statut de chercheur. En janvier, Bruno Le Maire, qui était à l'économie, annonçait 900 millions d'euros de coupes rien que pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc ce ne sont pas des petits appels à projets grappillés ici ou là qui vont pallier l'austérité. Il faudra trouver de l'argent. Accepter ou non cet établissement public expérimental, c'est un faux dilemme pour elle. La question est entièrement nationale. Les dirigeants syndicaux, locaux comme nationaux ont fermé les yeux sur cet aspect, car partout les responsables sont impliqués dans les fusions. Le 7 décembre 2023, à l'Élysée, d'ailleurs, lors d'une réception sur l'avenir de la recherche, Emmanuel Macron, qui parlait aux chercheurs et aux présidents d'établissement, faisait un peu d'ironie, et il disait « Je n'ai pas dit qu'on allait réformer les statuts, je vous invite à les changer vous-même ». La présidence de Paul Valéry s'y collera-t-elle bientôt ? Quoi qu'il en soit, l'université risque d'être confrontée cette année à une nouvelle année de disette. Et même si la loi autonomie a pour l'instant été suspendue suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, le budget qui s'annonce, s'il vient à passer, actera la recondition d'une bonne année et une bonne cure d'austérité.
Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
C'était un article donc à retrouver sur lepoint.net, le point avec un G à la fin, signé Elian Barascu. Et d'ailleurs, une petite brève aussi dans les mêmes colonnes, qui s'intéresse aussi à l'université avec une affaire dont je vous parle depuis un moment, 6 ans maintenant, l'affaire Coronel. 6 ans donc après l'attaque d'un commando cagoulé sur des étudiants qui occupaient un amphi à la fac de droit, le Conseil d'État a finalement rendu sa décision en révoquant définitivement le professeur d'histoire du droit, Jean-Luc Coronel de Boissezon, qui est placé très à droite et qui avait été justement impliqué dans cette histoire de commando. Il est donc maintenant définitivement interdit d'enseigner dans un établissement public. C'est une décision qui date de ce 27 septembre et donc il a été révoqué intégralement et ailleurs, par ailleurs condamné au pénal à un an de prison ferme pour sa participation à ce fameux commando cagoulé. C'était suite à une lutte contre la loi ORE, ORE le 22 mars 2018, une occupation d'amphi pour faire une AG et une bande de fascistes cagoulés avait débarqué. Cette décision marque donc la fin d'un feuilleton administratif qui aura duré 6 ans. Et on rappelle que le prof et Jean-Luc Coronel de Boissezon avaient déjà des liens avec le groupuscule identitaire violent et raciste, la Ligue du Midi. Et il a continué à mener des activités politiques toujours très 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 à droite ces dernières années. Hein. Puisqu'il avait été suspendu de la fac, il s'était reconverti comme prof à l'ICEP. C'était une école privée lyonnaise dirigée par Marion Maréchal Le Pen, qui visait à former les cadres de la nouvelle droite. En décembre 2022, il était allé à un forum de la dissidence, avec toutes les têtes d'affiche de la mouvance identitaire, et était devenu cadre de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Bon, il n'avait pas eu beaucoup de jugeote vu les derniers résultats électoraux de son leader. Et voilà, en tout cas, pour ce qui est de la fac, c'est fini, on n'entendra plus parler de lui.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on va s'intéresser maintenant à la question des EPR, les futurs EPR, mais ceux qui existent aussi déjà, qui seraient peut-être sous la menace de la montée des eaux. En tout cas, Mediapart, Libération et Reporter en font leur une du jour. C'est donc à Gravelines dans le Nord avec ce site nucléaire d'EDF que l'on va. Un site où doivent être construits deux réacteurs de deuxième génération EPR. Eh bien, ce site serait trop vulnérable à la hausse du niveau de la mer. Dans le contexte du dérèglement climatique, justement vient cingler une étude de Greenpeace. Pourtant, du côté d'EDF, on assure s'appuyer sur les rapports du GIEC. C'est quand même la plus grosse centrale nucléaire de France. Elle se trouve au bord d'une plage, hein, sur un polder, c'est-à-dire une étendue de terre située au-dessous du niveau de la mer, un peu comme ils font, vous savez, en Hollande. On est donc à Gravelines et c'est 6 bâtiments réacteurs qui font face à la mer, et qui risquent d'être bientôt rejoints donc, par 2 EPR de deuxième génération, puisque c'est là que EDF a choisi de construire une paire de cette nouvelle génération d'équipements atomiques. Après de longs atermoiements, des ralentissements dans le chantier, etc., un débat public vient de démarrer au sujet de ce projet d'au moins 16 milliards d'euros. L'ONG Greenpeace, donc dans ce contexte, a réalisé une carte de France, de la montée des eaux qui indique jusqu'où les eaux pourraient monter si le pire scénario des scientifiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, se réalisait. On y voit les réacteurs disparaître sous les flots en 2100 et encore plus en 2120. On s'appuie là sur le scénario SSP 5,8,5, un scénario qui prévoit des processus d'instabilité de la calotte glaciaire si la hausse des températures atteint 4 degrés et plus, avec après donc des modifications des circulations d'air, comme dans les bons films catastrophes que vous avez peut-être déjà vus. Si ce scénario se réalise, le niveau moyen de la mer à l'échelle du globe pourrait approcher 2 mètres de plus et 5 mètres d'ici 2150. Ouais, 2 mètres pour 2100 et 5 mètres pour 2150. En 2100, donc dans ce scénario, l'ensemble du site de Gravelines pourrait se retrouver au moment des marées hautes sous le niveau de la mer. La centrale nucléaire sera donc particulièrement exposée en cas d'événements climatiques extrêmes, hein, des typhons, des ouragans, et ça sera uniquement justement la protection et la robustesse de ces infrastructures qui en permettront la sauvegarde, notamment les murs et les digues qui l'entourent. En France, d'ailleurs, les nôtres centrales nucléaires ont été construites au bord des fleuves ou près de la mer, vous le savez sûrement, car elles y rejettent de l'eau qui sert à refroidir les réacteurs. Le site de Gravelines est à côté de Dunkerque, et à Dunkerque, on a déjà une vingtaine de sites industriels Seveso. Ça rajoute donc une petite couche là-dessus, et le site de Gravelines est déjà aujourd'hui classé comme risque important d'inondation. Donc il y a déjà des protections qui existent, hein. EDF a fait construire une digue de 4 mètres de haut, des portes étanches et un assemblage de structures métalliques enfoncées dans le sol, ça s'appelle des pales planches. Tout ça a été fait après l'accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011. Et la hauteur de protection d'ailleurs contre les inondations a été relevée et portée à 7,48 m très exactement. Les futurs EPR de E pourraient être juchés sur une plateforme de 11 mètres de haut, donc ils y pensent quand même. Donc a priori, bien au-dessus du pire scénario de hausse du niveau de la mer. C'est d'ailleurs la défense principale de EDF. Mais dans cette hypothèse, les nouveaux réacteurs, s'il y avait inondation, deviendraient une sorte d'île, au-dessus des eaux certes, mais isolée du reste des installations. Or, pour qu'un réacteur nucléaire soit sûr, il faut qu'il soit en permanence refroidi et donc connecté à une source d'électricité. Si cette centrale de Gravelines se retrouvait ceinturée par l'eau, cela affecterait l'ensemble de l'infrastructure, analyse le rapport de Greenpeace. Une situation qui engendrerait un fonctionnement de la centrale en mode dégradé, avec des fonctions vitales qui seraient mises en péril, comme par exemple l'évacuation de l'électricité produite par la centrale. Et oui, car les réacteurs, ça ne s'arrête pas comme ça. Mais aussi son alimentation électrique et le fonctionnement des pompes pour le refroidissement des réacteurs. C'est le nœud un peu de la question, c'est qu'il faut toujours avoir de l'eau qui circule là-dedans pour refroidir, sinon, bah justement, ça pète. Pour EDF, la hauteur de la plateforme retenue, donc les 11 mètres pour ces EPR de Gravelines, permet une protection contre les inondations extrêmes. Ils expliquent avoir bien considéré justement les pires effets des scénarios du GIEC. Et l'industriel ajoute que ce niveau, d'ailleurs, comme le reste du dispositif de sûreté, a été soumis à l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire. A noter qu'à l'heure de l'écriture de cet article, l'ASN n'avait toujours pas lu le rapport de Greenpeace quand ils ont été contactés par Mediapart, bah justement pour avoir leur avis. EDF, par contre, n'a pas encore déposé de demande d'autorisation et l'ASN n'a donc pas encore connaissance des hypothèses qui sont prises en compte pour les dimensions de ces ouvrages de protection, mais assure malgré tout qu'elle sera amenée à instruire l'ensemble des risques naturels pouvant affecter ces réacteurs, en particulier ceux qui sont impactés par le changement climatique. Bon, on renvoie un petit peu la balle dans le camp de dire ben, on n'a pas encore fait les demandes, etc. En tout cas, le rapport de Greenpeace soulève lui un autre problème, et ben celui de la période qui est prise en compte par l'exploitant pour garantir la sûreté de ses installations. Et là, on est aussi dans des failles législatives. Ces réacteurs sont a priori prévus pour fonctionner 60 ans, donc jusqu'à, je sais pas, justement 2100, et ensuite, normalement, ils sont censés être démantelés. Or, le processus de démantèlement, ça se fait pas en 2 jours, ça prend très très longtemps. Par exemple, EDF n'a toujours pas fini de démanteler Brennilis, on est en Bretagne, un site qui a pourtant arrêté de fonctionner en 1985, ça fait 40 ans. Et les combustibles irradiés, qui est justement le point le plus difficile à virer, bah, ils restent radioactifs bien après l'arrêt d'un réacteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui pensent qu'aller les enfouir sous la terre serait une des meilleures solutions. En tout cas, pour l'heure, ni l'industrie, ni les institutions publiques n'ont communiqué d'études, justement, qui sont basées sur tous ces risques de submersion que les dernières connaissances scientifiques viennent mettre en avant. Tous ces réacteurs en bord de mer qui sont censés être construits maintenant, le démantèlement, si on prend tout ça en compte, ça nous amène à l'horizon 2130-2150. Et donc, vous l'aurez compris, c'est pas des études d'impact faciles à réaliser. Le dérèglement du climat crée pourtant une véritable course contre la montre, car si les gaz à effet de serre ne déclinent pas assez vite, spoiler, ce n'est pas le cas pour l'instant, plus le temps avance, plus le niveau de la mer va monter. Et donc les pires scénarios du GIEC seront peut-être même pas les pires qui vont se réaliser. Pour Pauline Boyer, en tout cas, qui est chargée de campagne anti-nucléaire chez Greenpeace et qui est autrice donc de ce rapport, la situation à Gravelines est particulièrement choquante. La procédure globale d'autorisation administrative de ces réacteurs nucléaires est obsolète, justement, car elle ne prend pas en compte le dérèglement climatique et elle s'appuie sur des résultats sans justification. Tout cela, finit-elle, est très inquiétant et montre qu'EDF ne prend pas la mesure de l'enjeu climatique. En tout cas, une séance du débat public sur les EPR2 de Gravelines est programmée ce 10 décembre à Saint-Folquin, une commune qui avait, elle, par exemple, été reconnue en hiver 2023, reconnu à l'état de catastrophe naturelle lors des grandes inondations.
Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr.
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra.
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Et après les inondations, je vous propose d'aller reprendre un peu de chaleur. On va parler des feux de forêt au Brésil et le président et le gouvernement Lula en grande difficulté. Le Brésil vit en ce moment la pire sécheresse jamais enregistrée sur son sol. Les incendies font rage depuis le mois de juillet. Et malgré des récentes mesures, le gouvernement fédéral semble dépassé et le président Lula paye donc le coût politique de cette pandémie d'incendie. On commence l'article, c'est dans les colonnes de reporters et on s'intéresse aux Caripunas, qui sont un peuple une soixantaine dans l'état de Rondônia, qui ont frôlé l'extinction dans les années 70. Eh bien, depuis 69 jours, les feux grignotent la forêt de cette population autochtone. Si l'Amazonie est donc la plus touchée, eh bien, c'est cette fois tout le pays qui souffre, à l'exception du sud et d'une partie du nord-est. 11 millions d'hectares ont déjà brûlé, et régulièrement 80% du territoire brésilien se couvre de fumée. À la sécheresse de 2023, se succède en effet celle plus intense de 2024 qui fragilise la végétation. Et, spoiler aussi, c'est toujours l'humain qui est à l'origine de ces feux de forêt. C'est Anne Alencar, qui est une directrice scientifique de l'IPAM, l'Institut de Recherche Environnementale sur l'Amazonie, qui l'explique. Il y a les humains qui continuent d'utiliser le feu sur leurs terres, parfois par manque d'informations sur les risques de propagation, et ceux aussi qui profitent de la situation. Les départs accidentels et les brûlis traditionnels qui viennent défricher par le feu une zone boisée sont quand même malgré tout la principale cause des incendies. Mais les effets pervers des lois justement qui sont en train d'être passées rajoutent aussi du feu au feu. La majorité des feux en Amazonie ou dans la savane du Cerrado ou la zone marécageuse du Pantanal servent à l'extension des activités agro-pastorales. On gagne du terrain sur la forêt sans s'embêter avec des engins. La sécheresse rend d'ailleurs le procédé bien plus rapide et dévastateur. L'État a bien repris une lutte efficace contre la déforestation, et ses manœuvres sont donc repérables car c'est interdit. Mais le feu qui ne s'étendait jamais dans une forêt saine permet maintenant d'agir vite pour dribbler les autorités. C'est-à-dire si on veut vite déforester une parcelle en vue de faire pousser des trucs et sans se faire coincer par l'État. Et on y fout le feu et ça marche. Lula a d'ailleurs reconnu, un petit peu embarrassé, que le Brésil n'était pas à 100% prêt, quand sa ministre de l'Environnement, elle regrette carrément une planification insuffisante. Dès le mois d'avril, pourtant, des alertes scientifiques n'ont pas manqué sur la sécheresse qui s'annonçait. Et pour les oppositions politiques, c'est une occasion en or. Alors que Lula, l'actuel président, a construit justement une partie de sa campagne en contrepoint à la politique environnementale, enfin plutôt la politique de destruction écologique de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Être pris à revers donc justement sur ce thème augmente l'impact des critiques, explique une analyste politique à Brasilia. L'extrême droite reste en effet dominante sur les réseaux sociaux et par exemple produit des mèmes avec une forêt en feu et en filigrane le visage de Lula. Tout cela inondant les groupes WhatsApp, c'est quand même un petit peu le comble de l'ironie quand on sait justement la politique dévastatrice de Bolsonaro et de ses soutiens. Tout ça fournit en plus des nouveaux arguments aux pays européens, notamment ceux qui s'opposent à l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Et tout cela alors que le coût de ces feux pour le secteur agricole, si on ajoute en plus là aussi des graves inondations du mois de mars dans le sud, tout ça peut faire augmenter l'inflation sur place. Alors Lula est donc pas en bonne posture et pour tenter de se ménager une porte de sortie, il flirte parfois avec le conspirationnisme en disant par exemple que quelque chose lui dit que certains secteurs profitent de l'opportunité pour créer la confusion dans ce pays. Isabelle Schmidt, qui est professeure à l'université de Brasilia, explique elle que les incendies sont en effet utilisés pour se venger d'opérations de répression. Difficile pourtant de déceler une stratégie politique coordonnée, qui serait faite par des ennemis de l'administration luliste. En tout cas, ça les arrange bien, et ils se retrouvent donc en position de faiblesse, notamment face au Congrès, un Congrès avec lequel il entretient des relations difficiles, et le gouvernement, justement, face à ces pressions, lâche souvent du lest sur l'environnement, en essayant de négocier sur d'autres questions. Toujours selon cette chercheuse, la pression du pouvoir législatif est constante pour baisser les fonds alloués aux questions environnementales. Ainsi, pour 2024, le Congrès brésilien a amputé le budget de prévention des incendies et des agences de protection. On se sent donc bien seul face à ces feux. C'est le cas, par exemple, du député Amon Mandel, qui est dans l'état de Amazonas. Et il est l'unique parlementaire de tous les députés qui a destiné une partie de son budget à des projets, à la prévention des incendies. C'est le seul à avoir fait ça. Mais, dit-il, ça ne m'a pas surpris, la plupart des élus ne se préoccupent pas de l'environnement. En cela, ils reflètent malheureusement l'opinion d'une grande majorité de Brésiliens. Le Congrès, sinon, s'assoit aussi sur des textes importants, comme par exemple une politique de contrôle des feux qu'il faudrait approuver. Elle est dans les tiroirs depuis 6 ans. Et, à l'inverse, plus de 20 projets de loi particulièrement destructeurs progressent, malgré donc un pays en feu, regrette un avocat à l'Institut socio-environnemental, Mauricio Guetta. Les parlementaires se font plutôt discrets sur ce sujet, hein, dans le journal O Globo. Depuis le début des incendies, la commission environnement de l'Assemblée n'a débattu que de deux cas, celui d'un hommage au crapaud buffle et la garde partagée des animaux domestiques. Ça fait un petit peu léger en effet pour la commission environnement de l'Assemblée. Côté judiciaire, donc le côté un petit peu répressif, eh ben, ça reste très anecdotique aussi. Cette année, 210 000 incendies ont déjà été recensés, dont une bonne partie d'ailleurs d'origine criminelle, eh bien tout cela n'a donné lieu qu'à 56 procès. Et le plus souvent, l'incendiaire voit sa condamnation convertie et il se retrouve seulement à payer quelques paniers alimentaires, explique l'avocat de l'Institut socio-environnemental. Pourtant, la législation, elle est claire depuis 1934, hein, il est interdit de faire des feux sans l'autorisation de l'État, mais c'est sûrement là la loi la moins respectée du Brésil. Beaucoup parient d'ailleurs aussi sur de futures lois d'amnistie hein, qui sont régulièrement votées au Congrès. Difficile donc, vous l'aurez compris, d'avancer dans ces conditions. Le pays reste sous les flammes et les fumées. Malgré tout, bah, la chercheuse de l'université Isabelle Schmitt ose y croire. De grands chocs lancent parfois un mouvement, dit-elle, en impactant par exemple, comme c'est le cas en ce moment, les centres-villes comme, et les centres du pouvoir comme Sao Paulo ou Brasilia. La fumée va peut-être faire changer un petit peu les opinions et forcerait peut-être les différents pouvoirs à réagir. Mais bon, l'espoir est maigre. Et toujours le député amazonien Amom Mandel explique par exemple que l'an dernier, la ville de Manaus a eu la pire qualité de l'air au monde et que cela a été ignoré. Il espère peut-être que maintenant que tout le Brésil souffre, les choses peut-être vont évoluer. Allez, je termine, j'essaye avec une petite note un peu d'espoir, en tout cas positive. On se demande dans cette étude si la musique aurait un rôle à jouer dans la restauration des sols. C'est ce qu'ont découvert en tout cas des chercheurs australiens. Ils ont publié une étude dans Biology Letters ce 2 octobre et ils ont étudié la diffusion d'un son monotone. Alors, on n'est pas vraiment sur de la musique, mais bon, on est quand même sur du son. Eh bien, ce son stimulerait l'activité d'un microscopique champignon du sol, qui est connu pour favoriser la croissance des végétaux, car vous le savez peut-être ou pas, dans les sols, les mycéliums des champignons sont très souvent associés aux racines des arbres, et les arbres poussent très très difficilement sans justement l'énorme capacité notamment d'absorption de l'eau de tous ces champignons. De multiples technologies sont en place déjà aujourd'hui pour améliorer l'état de nos sols. L'utilisation de cette stimulation acoustique, donc pour essayer de restaurer les écosystèmes et promouvoir la croissance des plantes, a jusque-là pourtant reçu peu d'attention. C'est ce qu'expliquait l'équipe de chercheurs de cette université de Flinders, donc en Australie. Et ils se sont basés sur des travaux, notamment sur l'exposition de bactéries, hein, la bactérie Escherichia coli à des ondes sonores. Et ils ont tenté, eux, d'en évaluer l'impact sur le taux de croissance et la production de spores d'un champignon microscopique qui s'appelle Trichoderma arzianum, qui est très souvent utilisé, notamment dans l'agriculture biologique, puisqu'il a des grandes capacités de protection des plantes aussi des agents pathogènes et il favorise leur croissance. Pour ces expériences, les chercheurs ont joué un stimulus acoustique monotone d'une fréquence de 8 kHz. Je ne sais pas si je pourrais vous faire écouter ça, je pense que c'est assez aigu. Ce qui ressemble au son d'une radio ancienne entre deux stations. Ah oui, un grésillement de radio, ils ont mis ça dans le sol. Et cette stimulation, eh bien, elle aurait donc eu des effets positifs en entraînant une augmentation de l'activité de la spore par rapport à des modèles qui n'avaient pas donc le son. Ce résultat pourrait notamment être dû à un effet piézoélectrique. C'est l'effet dans lequel une pression mécanique, donc notamment bah, les vibrations du son, se ensuite convertit en charge électrique. Donc peut-être que les champignons réagissent exactement de la manière que mon micro en ce moment. Toutefois, des recherches complémentaires seront encore nécessaires pour affirmer ou non les hypothèses, mais aussi bah, pour déterminer si la croissance de ces champignons, ensuite, par le son, profite aux plantes, puisque c'est quand même ça, en tant qu'humains, nous, qui nous intéresse. Allez, on termine avec un peu de musique, et puis on reste dans la thématique champignonesque avec le groupe Incubus. Et à ses tout débuts, le morceau s'appelle « As We Think We Is », et il est issu, justement, de l'album « Fungus Among Us ». À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Floating round my brain, traveling.
marché des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.